La nuit porte conseil. Une chronique de Fréquence Terre Écolodio, Pierre Guelf.
Poursuivons la lecture de l'essai « L'histoire sacrée du monde » de Jonathan Black, paru chez J'ai lu, avec cette quatrième chronique et le sage chinois Li Tzu. C'est un fait d'expérience que, peu avant de s'éteindre, la vue devient, pour un temps plus perçante, ce qui achève de l'user. Entendre le vol des moucherons est signe qu'on va devenir sourd. Il en est de même pour le goût et pour l'odorat. Un excès d'agitation précède et amène la paralysie. Une excessive pénétration précède et introduit la folie. Tout apogée appelle la ruine. Qu'en pense l'auteur ? Le mal, c'est la sagesse au mauvais moment. Le combat entre la lumière et les ténèbres prendra fin quand les étincelles de lumière auront réussi à transformer la matière, disait-on aussi en Perse au 1er siècle. La sagesse et les bonnes œuvres ont toujours été apportées au monde, périodiquement, par ceux envoyés par Dieu, dit-il. Bouddha en Inde, Zoroastre en Perse, Jésus en Occident. On est en plein mysticisme. Dans cet ouvrage volumineux, il est également très intéressant de découvrir ou de relire l'explication du passage du christianisme, secte locale romaine à la religion officielle. Au IVe siècle, Constantin fut en proie à des questionnements théologiques et il eut une vision, celle d'une croix flamboyante dans le ciel, affublée de l'inscription « Par ce signe, tu vaincras ». Le lendemain, il fit construire une croix, l'emmena au champ de bataille et emporta la lutte. Il put unifier l'Empire romain grâce au Dieu des chrétiens. Ce fut ainsi qu'il mit fin à la persécution des chrétiens. Jonathan Black explique « Dans cette histoire de Constantin, on voit des influences spirituelles s'exercer à travers un rêve, ce qui entraîne un grand tournant dans l'histoire. Certes, certains historiens doutent de la sincérité de Constantin, mais force est de reconnaître que le christianisme qu'il défendit n'était ni fermé ni dogmatique et ne niait pas la réalité spirituelle des autres traditions religieuses. Certains, en ce 21e siècle, feraient bien d'en prendre de la graine alors. Autre chapitre intéressant. Au XVe siècle, un sultan reçut la visite d'un saint soufi nommé Cheikh al-Dashouti. Ils se disputèrent au sujet de Mahomet. S'était-il réellement élevé à travers les cieux ? Le sultan était un peu sceptique. Le cheikh lui dit que s'il plongeait sa tête dans une bassine d'eau, un court instant, il comprendrait. Quand le cheikh releva la tête, il dit avoir vécu plusieurs vies en un instant. Passons au XIXe siècle avec l'essayiste Thomas de Quincey. Tous les sons articulés et tous les bruits qui se produisent sur ce globe doivent être autant de langages et de systèmes de chiffres ayant quelque part leur clé, leur grammaire et leur syntaxe. Ainsi, les moindres choses de cet univers sont mystérieusement les miroirs des plus grands. Le monde entier est une forêt de symboles, bien que la signification de ces symboles puisse ne pas apparaître à l'intelligence humaine de tous les jours. Les connaissants, qui sont des mystiques et des visionnaires, ont la raison et l'imagination qui travaillent main dans la main en parfaite harmonie. Pour les soufis, le cœur est l'organe de perception des valeurs de la vie. En tant qu'organe de perception, il nous montre des choses que le cerveau ne peut pas nous montrer. L'amour, le bonheur et la beauté. Plusieurs textes alchimiques sont attribués à Thomas d'Aquin et s'intéresseraient à la spiritualisation de la matière par l'esprit. Ainsi, l'esprit humain entame le travail de transformation en œuvrant d'abord sur le matériau qui lui est le plus proche, c'est-à-dire le corps humain.
Pierre Guelf. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site ecolodio.com.